Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat avec Thomas Scarpellini, bonsoir.
Bonsoir.
Et William Tay, bonsoir William, président du think tank Le Millénaire. On va parler des sujets qui nous intéressent et notamment ce G7 qui prend des allures de sommet pour la paix au Japon avec cette visite surprise du président Zelensky qui a d'ailleurs, Jacques Serret nous expliquait dans le journal de 18h les coulisses de sa venue qui a embarqué sur la 330 de la République française. Qui lui a été mise à disposition puisque c'est justement lors de cette visite à Paris que Macron a dit à Zelensky « Et si tu venais au G7, je m'occupe de la logistique ». Cette venue de Zelensky, évidemment, ça n'est plus un G7, c'est un sommet totalement différent qui a lieu, William Tay.
Il y a deux conséquences à ce G7. La première, c'est que la France, Emmanuel Macron est en train de clarifier sa stratégie, même s'il a fait un certain va-et-vient sur un ensemble de positionnements. C'est-à-dire que la France avait toujours eu le choix entre la position qu'on appelle gaulo-mitterrandienne, de puissance d'équilibre entre les nations, entre les blocs ouest et les blocs est, et le choix du chemin atlantique. Et Emmanuel Macron, vraisemblablement ces derniers temps, a pris le chemin atlantique, alors que lors de son dernier déplacement en Chine...
Pas le choix, en fait.
Oui, mais lors de son dernier déplacement en Chine, il avait donné un chemin qui semblait peut-être différent sur Taïwan, sur la Chine, etc.
Il était en Chine.
Il était en Chine.
Accessoirement.
Il était en Chine. Il était en Chine.
Il voulait repartir, vous voyez.
Et ensuite,
son avion.
Là, du coup, sur la question ukrainienne, il y a un sujet essentiel, c'est que Macron, qui apparaissait au départ comme celui qui voulait discuter à la fois avec Poutine et Zelensky, se place comme le premier pays européen qui soutient Zelensky. Et c'est plutôt Scholz qui essaye de jouer la puissance d'équilibre à freiner l'aide européenne pour trouver un processus de paix. Et le deuxième point que je vois sur ce G7, c'est qu'il semble avoir de moins en moins de légitimité qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République et qui a voulu créer le G20. Vous avez un G7 qui, aujourd'hui, regroupe moins de 50% du PIB mondial. Dans les années 70, lorsque Valéry Giscard d'Estaing y allait, ça regroupait 75 à 85% du PIB mondial. Aujourd'hui, vous avez un club occidental qui gère les affaires occidentales du monde, mais qui ne parle pas à l'autre partie du monde. Lorsque vous prenez les votes contre la Russie et l'agression russe en Ukraine, vous voyez que les votes condamnant la Russie se diminuent au fil du temps des assemblées générales des Nations Unies. Vous n'avez pas la Chine qui est représentée au G7. Vous n'avez pas la
D'ailleurs,
Russie.
D'ailleurs, vous avez Xi Jinping qui a lui-même fait un sommet tout seul dans son coin avec les cinq puissances.
Ça pose véritablement question. Quand vous prenez les pays du G7, qu'est-ce qu'a à faire l'Italie dans les affaires mondiales? Qu'est-ce qu'a à faire le Canada dans les affaires mondiales? On comprend la présence du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et du Japon. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu remplacer certains pays par l'Inde?
Vous voulez dire que c'est obsolète?
Je pense que c'est obsolète parce que c'est une affaire occidentale qui traite des affaires occidentales et qui ne se trouve pas la question ukrainienne parce que tant qu'on n'aura pas la Chine, tant qu'on n'aura pas l'Inde, tant qu'on n'aura pas la Russie, tant qu'on n'aura pas les pays du Moyen-Orient et le Brésil, on ne pourra pas résoudre la question ukrainienne.
Alors ne vous fâchez pas avec les Italiens, Thomas Scarpellini.
Non, évidemment que l'Italie a toute sa place en tant que pays ayant un très grand soft power, à différence de hard power, mais la culture italienne marche. On sait que par exemple Meloni est particulièrement vigilante à la question ukrainienne. De manière pratique, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle sur ce G7, c'est deux choses. La première, c'est que Zelensky n'est pas parti d'Ukraine, il est parti du monde arabe. Il a traversé quel pays? La Chine. La Chine a ouvert son espace aérien à Zelensky. On pourrait penser que c'est anodin. Mais on a vu certains avions de dignitaires ukrainiens, notamment quand ils allaient parler aux Australiens, devoir contourner la Chine. Donc là, quand Zelensky voyage dans l'avion français, il peut passer au-dessus de la Chine. C'est anodin pour beaucoup, mais en géopolitique, tout est symbole.
C'est peut-être parce qu'il est dans un avion français.
Peut-être, en effet. La deuxième chose, et là je rejoins absolument ce que dit William Tay, c'est qu'un G7, c'est très intéressant. Mais où est la Turquie, qui a un rôle central? Où est Israël, qui a un rôle central? Où est la Chine? Où est le Brésil? Et finalement, cela permet d'avoir, passez-moi l'expression italienne, le mezza voce qu'on entend dans tous les pays du Sud, que finalement, ce conflit, c'est une guerre, passez-moi l'expression, de blanc. C'est-à-dire que quand c'est dans l'Occident, quand ça touche une puissance occidentale, ou du moins frontalière à une puissance occidentale, là, c'est le G7, c'est la communauté internationale, on doit tous se mobiliser. Mais finalement, quand on entend les discours, notamment les presses nationales, indiennes ou brésiliennes, on se dit et on lit, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Pourquoi ils font tout ça alors qu'on ne les entend pas sur le Yémen? Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça alors qu'on ne les entend pas sur le Biafra? Et cela crée une fracture entre le monde occidental et le monde oriental. Et cela avait un sens quand le G5 représentait 75% du PIB. Or, ce n'est plus le cas actuellement.
C'est vrai que les annonces qui ont été faites par Joe Biden sur l'envoi des F-16, elles auraient pu être faites en marge d'ailleurs du G7.
Il y a plusieurs points, c'est qu'ils sont réunis entre G7, mais ils font tous partie de la même coalition occidentale, donc c'est-à-dire alliés aux États-Unis, à la fois sur les deux questions qui concernent le G7. La Russie, l'agression russe en Ukraine, et la question chinoise. Mais ce ne sont que des pays alliés. Il n'y a pas de pays qui partagent une stratégie qui est différente. L'autre point que je vois, c'est qu'en fait, en faisant ce type de réunion, en devenant un club quasiment américano-centré, le G7 perd sa vocation de diriger et de jouer une puissance d'équilibre, de réunir les affaires mondiales. Lorsque le G7 avait des puissances d'équilibre comme l'Allemagne à l'époque de Schröder ou de Jacques Chirac qui représentait la République française sur la question irakienne, le G7 avait un intérêt. C'est-à-dire que les pays africains, les pays du Moyen-Orient, les pays d'Amérique du Sud y voyaient des pays capables de représenter leur voix à la fois dans ce G7 et dans les organisations internationales. Là, ce n'est plus le cas. Donc pour moi, le G7 perd une partie de son utilité. Ça ressemble davantage à un sommet de l'OTAN qu'à un sommet du G7, notamment sur ces questions-là, auxquelles on mêle sanctions économiques et en plus questions géopolitiques centrées sur la Russie et sur la Chine. L'autre point que je vois sur la stratégie adoptée par le G7, auquel moi je suis plutôt critique, c'est-à-dire que quelle est la stratégie en fait pour pouvoir résoudre les conflits à la fois en Ukraine et sur la Chine ? Sur la question chinoise, le G7 va probablement dire demain qu'il faut sanctionner économiquement les dépendances chinoises. Mais nous avons sanctionné les dépendances que nous avions à l'égard des États-Unis, notamment françaises, sur la question nucléaire, lorsqu'ils nous ont piqué Alstom? On ne l'a pas fait. Sur toutes ces questions-là, beaucoup de personnes et beaucoup de pays auxquels vous discutez vont dire qu'il y a deux poids, deux mesures quand il s'agit des États-Unis. Les États-Unis se permettent des règles qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Et l'autre point que je vois sur la question ukrainienne et russe, c'est est-ce que ce G7 permettra de parvenir à un processus de paix? On n'a toujours pas réglé les questions essentielles. C'est quelles frontières pour l'après-conflit? Quel est le moyen de parvenir Vladimir Poutine et Zelensky à la table de négociation? Est-ce qu'on garde la Crimée à la Russie? Est-ce que la Crimée doit revenir à l'Ukraine? Est-ce qu'il faut revenir aux frontières d'avant-conflit? Est-ce qu'il faut faire des concessions territoriales? Ce sont des questions auxquelles Zelensky et Biden ne sont toujours pas d'accord. Je vous rappelle qu'avant l'envoi des F-16, Biden était contre parce qu'il voulait régler cette question-là. Il a proposé trois processus de paix. Un auquel on revenait aux frontières d'avant-conflit, l'autre auquel on cédait une partie du territoire, donc la Crimée, et la troisième, c'est qu'on cédait les territoires dits annexés. Et Zelensky a dit qu'il voulait récupérer tous les territoires, dont la Crimée, ce au quoi Biden n'y croyait pas. Et donc on donne des armes à l'Ukraine sans parvenir déjà à penser l'après. Quand on compare les dirigeants à il y a maintenant presque 100 ans, comment ils ont fait pour régler la question de la Seconde Guerre mondiale? À Yalta, avant même la fin du conflit, ils sont réunis pour imaginer le monde d'après, les institutions internationales et les frontières d'après Seconde Guerre mondiale.
Alors, juste pour rajouter un petit peu d'information à ce qu'on vient de dire, il y a quand même à ce G7, même s'il n'y a pas la Chine, il y a le Brésilien, il y a Lula.
Oui, en invité.
Et il y a l'Indien
Modi.
Enfin, ils sont quand même à la table des négociateurs. Ils parlent, ils ne sont pas juste là pour prendre le café.
On est bien d'accord, et finalement, on voit même que ce qu'il y a eu, on parlait, souvenez-vous, il y a quelques jours, le sommet de la Ligue arabe.
Oui.
Auquel Zelensky était également invité, mais on a tous oublié également de dire que Bachar al-Assad était invité. Oui. Le grand retour du dictateur syrien. Et on sait très bien pourquoi Bachar al-Assad est réinvité. Parce que c'est la voix de Moscou. C'est l'allié historique de la Russie dans la région. Donc on voit que d'autres institutions qui pourraient égaler au point de vue symbolique le G7, en l'espèce la Ligue arabe, ont décidé de remettre la Russie par une petite porte, certes, mais une petite porte quand même, dans le concert des nations pour lui donner une voix. Et la chose qui est extrêmement problématique, c'est que nous sommes dans un monde, dans le 22e, dans le 21e siècle, en 2023, et c'est là où la différence est avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que finalement c'était simple de se mettre d'accord avec l'Allemagne, il n'y avait plus d'Allemagne. Le pays était rasé, Berlin était occupé. Qui imagine aujourd'hui ce conflit se terminer?
Ils l'ont fait avant la fin de l'Allemagne.
Oui, mais si l'Allemagne n'avait pas été mise à genoux, on aurait pu mettre tous les plans qu'on voulait, les Allemands n'auraient pas été aussi
justement,
dociles.
C'est pour ça que je fais la comparaison. Quand ils décident d'armer Staline à Stalingrad, ils disent à Staline, tu tiens le front Est,
exactement.
Comme ça on bat la Wehrmacht, et une fois qu'on aura battu la Wehrmacht, c'est-à-dire qu'ils pensent que le processus de paix est indissociable de la défaite de l'Allemagne nazie. Là, actuellement, on n'a pas dit qu'il fallait que, pour avoir un processus de paix, il fallait battre le Kremlin on n'a tranché aucune question existentielle sur est-ce qu'il faut battre le Kremlin, est-ce qu'il faut aller sur la stratégie Zelensky de faire tomber Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut faire un changement de régime, est-ce qu'il faut gagner militairement en Ukraine. Toutes ces questions-là, on a actuellement, des stratégies sont complètement divergentes entre Zelensky, l'Union européenne et Biden.
C'est exactement là où je voulais en venir, et tu aurais pu comprendre, William, si tu m'avais laissé terminer, pour reprendre l'image, c'est que c'est très simple, de jouer au shérif, mais pour jouer au shérif, il ne faut pas seulement l'étoile, il faut aussi le pistolet. Et on se rend compte que le G7, quand ils mettent en place des sanctions économiques, ça peut affaiblir la Russie, mais ça ne la permet pas de la contraindre à revenir au stade des négociations. La seule chose qui, dans un conflit, c'est, il suffit de lire Tzu, l'art de la guerre, ou n'importe quel philosophe de la guerre, il faut rentrer dans une dimension armée. On peut évidemment dire que c'est le G7 ne peut que s'enorgueillir de ne pas avoir envoyé des hommes au sol. Il demeure que tant qu'une réponse militaire n'est pas apportée à Vladimir Poutine, rien ne peut le contraindre.
Alors, F-16, c'est une réponse militaire.
Ouais. Ils sont en train de trouver leur pistolet. C'est là où on arrive à Yalta. Pourquoi est-ce qu'ils arment les Russes ? Parce qu'ils veulent aller à la guerre. Ouais. Les Américains viennent de rentrer dans Pearl Harbor. Les Américains viennent de déclarer la guerre au Japon et à l'Allemagne. Or, pour l'instant, quelle est la problématique de ce conflit ? C'est qu'on a deux belligérants, la Russie, l'Ukraine, et toute une nébuleuse autour qui se dit alliée, mais alliée en demi-teinte. Mm. Demain, si l'Allemagne est attaquée par un pays tiers... parce que personne ne veut la guerre. Mais il est très compliqué de ne pas vouloir la guerre.
Mais vous dites, elle est nécessaire.
Je ne dis pas qu'elle est nécessaire, je dis que l'histoire nous apprend que le shérif avec seulement son étoile ne fait pas régner l'ordre dans le village.
William T.
Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'est-ce que veut l'Occident, globalement ? Mmh. À la fois, d'un côté, les Américains...
Elle veut la paix en Ukraine sans avoir la guerre. Ce qui est, selon Thomas Carpellini, pas possible.
Moi, je pense que c'est impossible.
Vous pensez que c'est impossible.
Le sujet.
Ça veut dire qu'on a le choix entre laisser le conflit s'envenimer et ouvrir ce qu'on appelle communément une troisième guerre mondiale. Enfin, je veux dire, même si elle n'aura peut-être pas forcément la même tonalité que la seconde guerre mondiale.
Moi, je tiens une même théorie depuis l'ouverture du conflit, c'est que Poutine a attaqué en Ukraine parce qu'il a testé la résistance occidentale, notamment celle de Biden. Comme il avait testé la résistance d'Obama en Syrie et celle de David Cameron il y a plus de 10 ans maintenant. Oui,
Il savait qu'il n'allait pas répondre.
Ouais. Justement, il savait que Biden n'allait pas répondre. Il pouvait pas répondre.
Mais Biden, justement, il a dit à chaque fois qu'on l'interrogeait, est-ce que vous allez envoyer des F-16 en Ukraine ?
Non.
Et là, oui.
Et là, il dit oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je pense que le changement, c'est qu'ils n'ont plus la même stratégie qu'avant. C'est-à-dire que Biden a sa troisième stratégie. La première, c'était qu'il voulait quasiment être aligné sur Zelensky, donc faire tomber Vladimir Poutine dans un premier temps jusqu'au mid-term. Quand il a vu que ça allait lui coûter électoralement en vue des mid-term et qu'il allait perdre face aux Républicains, il a changé de stratégie pour adopter davantage un processus de paix, donc limiter l'aide vis-à-vis de l'Ukraine. Désormais, comme il va partir en conflit par rapport à Donald Trump, il doit montrer qu'il est capable d'avoir une autre résolution
en fait, que celle que de Donald Trump.
C'est que par rapport à la politique intérieure.
Je reprends l'expression d'Emmanuel Macron l'autre jour,
c'est qu'une question de politique intérieure américaine qui doit répondre à des objectifs électoraux, donc celle de la présidentielle de 2024, comme Donald Trump va être désigné vraisemblablement candidat des Républicains. Le deuxième point que je vois, c'est que l'Union européenne, elle, n'a pas la même stratégie que celle des Américains. Les Américains, traditionnellement, sont toujours sur une opération forte vis-à-vis de la Russie, sur la stratégie qui est celle de Ronald Reagan dans les années 80. Donc, c'est-à-dire affaiblir au maximum le pouvoir russe, quitte à faire tomber le régime, quitte à faire tomber le pays, pour ensuite après le reconstruire après. C'est ce qu'ils ont fait en Irak et en Afghanistan. Les Européens sont davantage sur une position dite pacifique. C'est-à-dire qu'eux préfèrent éventuellement résoudre le conflit de manière pacifique. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas les armes pour pouvoir le faire. Parce que, pour pouvoir résoudre le conflit de manière pacifique, c'est qu'il faut enclencher ce qu'on appelle la course à la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les moyens de l'Ukraine soient tellement importants que la Russie soit obligée de capituler ou ça lui coûte plus cher de vouloir continuer le conflit. Mais le problème de l'économie européenne, c'est qu'elle n'est ni armée sur le plan économique, ni sur le point de vue militaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de fournir l'effort de guerre vis-à-vis de l'Ukraine, donc de contraindre sa position, ce qu'est capable de faire Biden. L'autre point qu'on a, c'est qu'on a une stratégie qui est différenciée en fonction de là où vous êtes dans l'Union européenne. Si vous êtes dans un pays d'Europe du Sud, vous êtes davantage moins concerné sur l'Ukraine. Si vous êtes un pays d'Europe de l'Ouest, comme vis-à-vis de la France, vous avez une autre position. Un pays d'Europe du Nord a une autre position. Un pays d'Europe de l'Est sera vis-à-vis, très hostile vis-à-vis de la Russie.
Thomas Capani.
En fait, on se rend compte que le grand jeu de dupes qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après 91, la chute de l'URSS, disant « We are the world, we are together, on s'aime tous, on vit dans le monde des bisounours », n'existe pas. Et cette Union européenne en découle directement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne a une voix aussi pauvre dans ce débat ? Pourquoi elle n'arrive pas à être indépendante ? Car elle vit soit comme la France sur l'indépendance atomique, pas de bol, on est les seuls. Tous les autres vivent sous le parapluie américain. Et qu'il est extrêmement compliqué, ma grand-mère serait là, de vous dire, de mordre la main qui nous nourrit. La Pologne, l'Allemagne savent très bien qu'ils ont l'oncle américain, Uncle Sam, pour les protéger. Et quelle est la problématique initiale des États-Unis ? C'est que historiquement, ce pays est toujours divisé en fonction de ses présidences, de ses majorités, entre deux logiques. L'isolationnisme, nous ne sommes pas les gendarmes du monde, America first, Donald Trump, ou au contraire, le sur-interventionnisme. Nous sommes les gendarmes du monde, nous allons intervenir. Or, on se rend compte que Joe Biden est tiraillé actuellement entre ces deux visions. L'envoi du F-16 est un signal extrêmement fort, car peut-être que les États-Unis vont réussir à dépasser ce qu'on a appelé le traumatisme de Benghazi. Souvenez-vous, 2012, un ambassadeur américain est assassiné à Benghazi. Un ambassadeur, c'est-à-dire le représentant du drapeau américain sur un sol étranger. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit... l'apocalypse. Envoyer des dizaines de porte-avions, tous les Marines, cramer le pays, on venge notre ambassadeur. C'était la phrase de Monroe, one man, one bomb, on tue un de nos hommes, on envoie une bombe. Il ne s'est rien passé. jamais un soldat américain n'a été envoyé à Benghazi. Et cela a été un shift dans la logique géopoliticienne américaine. C'est-à-dire, on peut toucher à nos intérêts, mais il y a une marge de manœuvre. Or là, on se rend compte que cette marge de manœuvre, qui était de mettre en place des sanctions économiques, de faire jouer le débat, de monter les partenaires économiques les uns contre les autres, on arrive au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre de lassitude. Donald Trump et Joe Biden, qui sont finalement dans le même cas, voient le calendrier électoral arriver. Les électorats en ont marre. On veut avoir un débouché. Et face à un débouché, il n'y a que deux choix. L'isolationnisme. Les Américains pourraient très bien dire « c'est votre dos, c'est votre problème, on s'en moque ».
Mais ils ne le font pas.
Mais ils le font pas. Ou au contraire, ils acceptent de rentrer dans le jeu de la guerre pour reprendre l'image de 1945. N'oublions pas que les trois premières années de la Première Guerre mondiale, première comme de la Seconde d'ailleurs, les Américains n'apportaient qu'un soutien. Ils n'étaient pas qu'obligeants. Et ils sont rentrés. Donc nous ne sommes pas non plus à l'abri du fait que militairement, les États-Unis décident de rentrer dans un conflit.
Est-ce que ce qu'il y a de plus effrayant, ça n'est pas... Et là, pour le coup, il y a une vraie analogie avec 1939, c'est-à-dire le tout début de la Seconde Guerre mondiale, où, pour faire un énorme raccourci, on n'a rien vu venir. C'est-à-dire que vous avez des Français, je vais prendre les Français, mais on pourrait prendre les Italiens, moins les Polonais, parce que les Polonais, ils sont vraiment à la frontière ukrainienne, ils accueillent 4 millions d'Ukrainiens, ils savent ce que c'est, ils se disent le prochain coup c'est nous, enfin bon voilà. Mais prenons quelques comme ça, les Américains bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas en train de, dans une sorte d'inertie, en se disant bah oui d'accord, bon il y a une guerre en Ukraine, oui d'accord, Biden va envoyer des F-16, oui d'accord, bon bah après tout, nous ce qui nous intéresse c'est notre pouvoir d'achat, l'inflation, le bouclier tarifaire, qu'est-ce qui va se passer en juillet, c'est terminé sur le gaz, les prix des carburants, ça n'a jamais été aussi cher, surtout en France. Est-ce qu'on n'est pas un peu myope, si ce n'est aveugle, William T?
Si, plutôt. En fait, ça peut nous faire penser à ce qui s'est passé avant les accords de Munich. C'est-à-dire que se joue ce que les gens doivent comprendre. Et même, il y a eu beaucoup d'émotions au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, on voit bien que les problèmes économiques, l'inflation, le pouvoir d'achat, la montée des prix énergétiques font pencher les opinions publiques européennes, globalement, et même américaine. C'est pour ça que Biden avait changé de stratégie en vue des élections de mi-mandat en novembre dernier. La difficulté, c'est que ce sont pour l'Ukraine, c'est que ce sont des démocraties. C'est-à-dire que les dirigeants ont besoin du soutien de la population pour pouvoir interagir. On sait qu'historiquement, les États-Unis sont toujours réticents à vouloir intervenir à l'extérieur en vue d'un soutien militaire. C'est-à-dire, vous devez soutenir un pays. C'était le cas notamment sur les deux guerres mondiales, c'était le cas en Corée, etc. Donc, ils sont toujours réticents à le faire. Je pense qu'ils préféraient ne pas le faire au vu de la stratégie qu'ils ont sur l'Indo-Pacifique. Mmh. La difficulté qu'ils ont, c'est que tout est lié.
Très intéressant, l'Indo-Pacifique.
C'est que tout est lié. C'est-à-dire qu'ils savent que Xi Jinping regarde ce qui se passe en Ukraine. Xi Jinping sait que si par cas, il n'y a pas de victoire en Ukraine de Vladimir Poutine, l'invasion à Taïwan sera encore plus compliquée que celle de l'Ukraine. Donc, vraisemblablement, il espère que Poutine gagne sans que la Chine ait besoin d'intervenir. C'est le premier élément. Les États-Unis, de l'autre côté, préféraient ne pas intervenir militairement à Taïwan. Eux sont engagés à intervenir militairement, à envoyer des GI, des troupes au sol. Donc, c'est-à-dire que si la Chine intervient à Taïwan, ils doivent intervenir. Donc, Biden doit faire en sorte que l'Ukraine gagne sans envoyer de GI au sol en Ukraine. Donc, ça maintient une équation qui est difficile. Et de l'autre côté, il espère que ce soit les Européens qui prennent le relais, un peu comme Donald Trump, il y a 4-5 ans, lorsqu'il critiquait l'OTAN, notamment l'Allemagne et la France, de ne pas mettre assez de dépenses militaires. Mais de l'autre côté, les Européens sont quasiment, j'allais dire, au regard de l'histoire, le pire acteur. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont le plus de bonne conscience, qui est illustré par von der Leyen, qui apportent le moins d'argent sur la table, qui apportent le moins de moyens, qui demandent le plus, qui tiennent le plus de discours moraux et qui apportent quasiment rien dans ce conflit. J'ai un peu honte pour nous, en fait.
Un mot quand même sur Emmanuel Macron. Sa médiation avec Zelensky, d'abord à Paris, là, il le retrouve au Japon. Encore une fois, Jacques Seret nous l'expliquait dans le journal de 18h, il est à la manœuvre, en tout cas l'Élysée est à la manœuvre de la venue de Zelensky à ce sommet qui, encore une fois, prend une tournure assez, je vais pas dire inespérée, mais en tout cas inattendue. Et en même temps, mais je reviens sur ce que je vous disais un peu en filigrane, c'est d'un autre côté, les Français, ils attendent plus Emmanuel Macron sur leur vie quotidienne. Ouais. Alors, quel avenir pour lui? Je veux dire, j'entends, et encore une fois, ce matin encore avec les grandes voix, on posait cette question, quelle sortie de crise pour Macron? Comment est-ce que vous voulez qu'il sorte de la crise alors qu'il se retrouve à gérer une autre crise qui n'est pas immédiatement celle des Français, Thomas Scarpellini?
Il donne le sentiment d'être un président en cohabitation, au sens premier du terme, avec un Premier ministre, une chambre qui n'est pas de son bord. Et dès lors, que fait un président en cohabitation quand il ne peut pas gouverner le pays?
Bah justement, il n'est pas en cohabitation.
Il parle, oui, mais justement, c'est ça, c'est paradoxal d'être en cohabitation. Ouais. C'est-à-dire, je fais fi des problématiques nationales, après tout, je suis le commandant en chef de la suprême des armées, je suis le président de la 6e ou 7e puissance économique mondiale, je suis Emmanuel Macron, je vais direction l'international pour gérer des problématiques à ma mesure. Le problème, c'est que, comme l'a très bien rappelé William, nous ne sommes pas en cohabitation. Et dès lors, on arrive à la limite du macronisme, c'est-à-dire la limite du en même temps. Il ne peut pas en même temps gérer l'Ukraine
et
en même temps gérer l'inflation. Il ne peut pas en même temps dire que la réforme des retraites est une réforme sociale et de l'autre dire qu'elle est indispensable. Il ne peut pas en même temps accueillir Zelensky dans son avion, faire des tweets, l'inviter à Paris et dire « je ne suis pas un allié objectif des États-Unis et j'apporte une troisième voie ». Il est temps qu'Emmanuel Macron fasse des choix. Vous savez, en politique, c'est que mon avis, mais ça a été assez confirmé par les enquêtes d'opinion, on peut reprocher à un homme politique de se tromper. Mais celui pour la chose pour laquelle on lui en veut, c'est ne pas avoir fait de choix. Emmanuel Macron, à mon sens, aurait beaucoup plus intérêt politiquement, comme économiquement, comme socialement et comme dans sa volonté de rentrer dans l'histoire, d'enfin choisir un cap.
Mais un cap et peut-être un collaborateur ou en tout cas un Premier ministre digne de ce nom, puisque enfin, on en revient toujours au choix, et ça a été maintes fois évoqué, d'Emmanuel Macron, d'avoir quelqu'un qui ne lui fait pas de l'ombre. Alors du coup, évidemment, il y a eu Madame Borne, il y a eu Monsieur Castex qui, à un moment donné, était quand même très très existant. Et puis, on connaît l'histoire sur Édouard Philippe, donc que dire là-dessus?
Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, je pense que ce qui peut sauver Emmanuel Macron, c'est une cohabitation de fait. C'est-à-dire d'avoir un Premier ministre qui gère l'agenda national et lui se concentrerait sur l'international. Seulement, il ne veut pas avoir, comme vous l'avez rappelé, de quelqu'un qui brille à sa place. Si Parquet, en plus, y réussit, ce serait encore pire. Le seul moyen qu'il a, c'est de faire en sorte de montrer aux Français qu'il n'a plus le pouvoir. C'est le seul moyen de sortir de la crise par le haut. Il ne peut plus reconquérir les Français par une allocution, parce que de toute façon, les Français montrent qu'ils ont de plus en plus d'intérêt sur ces interventions.
Même s'ils étaient encore 15 millions à le regarder lundi dernier.
Oui, mais c'est un chiffre très bas pour Emmanuel Macron. Alors que pourtant, il avait fait une présidentielle record. Je pense que le point original de son erreur, c'est qu'il a mal interprété les résultats de l'élection présidentielle législative. Il a été élu à la présidentielle parce que les Français voulaient être incarnés par quelqu'un qui ne soit ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, et qui présente une figure respectable et qui présente bien l'étranger, ce qui est son cas, parce qu'il représente plutôt bien la France à l'étranger, même s'il n'y réussit pas tout. Ensuite, son projet politique est minoritaire, donc il était mis en minorité aux élections législatives. À ce moment-là, il aurait dû virer Borne, mais il n'a pas voulu le faire pour des raisons de maintien de record d'Edith Cresson. Moi, je pense que si Parquet y met un Premier ministre fort, qui pouvait le mettre en cohabitation de fait, et il s'en sortirait parce que les Français aiment bien ce dispositif.
Mais qui vous dit que ça n'arrivera pas, hein?
Moi, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que si Emmanuel Macron refuse de le faire, les Français peuvent lui imposer de fait.
Oui.
La difficulté, c'est qu'il faut trouver un profil capable de rassembler soit l'aile gauche de la majorité avec la NUPES, mais ça n'existe pas, parce que la NUPES est en opposition complète avec le président de la République, soit la seule majorité alternative qui existe, c'est celle entre La République En Marche et Les Républicains. Et dans ce cas-là, il faudrait une fissure de consensus. Il y en a à peu près deux ou trois, Laurent Wauquiez, François Baroin, et malheureusement Nicolas Sarkozy n'est plus disponible.
Thomas Scarpellini.
Et comme vous l'avez très bien cité, les trois noms, car Emmanuel Macron est pris dans un miroir aux Alouettes, ce sont trois noms de droite. Il pense encore vouloir incarner l'aile gauche de la Macronie, mais il n'a pas lu les électorats, il a été élu par des voix de droite. Les majorités, les députés qui sont passés sont des majorités des ministres de droite. Et or, il a viré tous les marqueurs de droite de son gouvernement, à part Darmanin et Le Maire. Quand il s'appelait Blanquer est parti, il a refusé de nommer Vautrin, qui était de droite, pour choisir Borne. Il est enchaîné, muselé, boulé au pied par l'aile gauche de la Macronie. Et s'il veut s'en sortir, qu'il arrête en même temps et qu'il accepte d'être un homme politique de droite.
Merci beaucoup Thomas Scarpellini, merci à vous William T. Vous restez avec nous dans un instant, le journal de 19h, juste après Guillaume Debré qui sort un livre assez étonnant sur un scandale signé Talleyrand, ça s'appelle l'affaire XYZ chez Fayard. Et puis à 19h30, dans Panorama, nous accueillerons les entrepreneurs et nous leur demanderons quelques jours après le sommet Choose France, pourquoi diable ils investissent en France, le pays des impôts, le pays des charges, le pays des râleurs, bref, tout un témoignage que nous accueillerons, que nous écouterons avec attention. À tout de suite pour le journal de 19h.